Salut toi. Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Alors, ce matin, t'as la pêche? Pas trop. Ah, super. Et le boulot, le travail, ça doit être formidable, ça doit être captivant. Non, je fais pas grand-chose en ce moment. Et la famille, les enfants, elle est partie, tu sais, les enfants, je ne les vois plus trop. La vie, tout va bien, quoi. Et les copains, t'en as plein d'orange ou tu sais? Pas trop, à ce moment, ça. Je peux pas dire que ça téléphone énormément. Enfin bon, t'habites le centre-ville, tu dois croiser du monde. Non, je ne sors pas tellement, je me fais beaucoup livrer de nourriture et puis j'ai beaucoup de chaînes à la maison. Tu la voyais pas comme ça, ta vie. On va tous pareil, moyen, moyen, la grande aventure, tintin, tintin, et pourtant... Et je cherche une seconde partie plus optimiste. Mais vous voyez, Atmen, parce que je suis parti, si vous voulez, sur cette intro de Gainsbourg un petit peu négatif. Puis j'ai fait, vous m'avez accusé de faire les deux personnages avec la même voix.
Non, pas du tout. Moi, j'ai trouvé.
Si, parce que vous preniez note, il fait les mêmes.
Mmh. Il fait les mêmes voix, mais j'ai un peu vu ma vie quand même.
Ah bon?
Dans tout ce truc.
Ah non, pas du tout.
Moi, je reste à la maison et j'ai toutes les chaînes.
Oui.
J'ai vu ma vie.
Mais parce que c'est pas parce que vous les avez qu'il faut vous en servir.
Eh bien si, quand même.
C'est pas parce qu'on vous donne tout qu'il faut tout prendre. C'est une...
Ah, je le voyais pas comme ça.
Oui, alors le journal de Thierry Paré, il est très tard. Est-ce qu'on peut préparer l'horloge?
C'est la journée mondiale. Bonjour à tous d'abord. C'est la journée mondiale.
Voilà.
Bah oui, c'est déjà le béaba. C'est la journée mondiale de l'eau ce mercredi, l'occasion de rappeler que plus de 80% des eaux usées résultant des activités humaines sont déversées dans des rivières ou la mer sans aucune des pollutions. Et puis plus dramatique encore, l'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit fondamental par l'ONU. Or dans les faits, c'est nettement plus compliqué puisque 3 à 4 milliards d'êtres humains n'auraient pas accès à l'eau potable. On en vient aux affaires, on pensait qu'on en était sorti, pas du tout. Et ça repart de plus belle. Tout est donc d'abord allé très vite pour Bruno Leroux, hein, puisque le ministre de l'Intérieur a déjà démissionné hier, hein, 24 heures après les révélations. Il a déjà été remplacé par Matthias Feckel, jusqu'ici secrétaire d'État au commerce extérieur. Bruno Leroux a été contraint de tirer les conséquences des révélations sur l'emploi de ses deux filles à l'Assemblée nationale alors qu'elles étaient mineures et sur la réalité d'une partie du travail effectué. Et alors que Bruno Leroux démissionnait, François Fillon lui prend une nouvelle l'affaire François Fillon prend une nouvelle ampleur, les affaires même. D'abord l'enquête sur les emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale. Cette enquête est élargie à des faits d'escroquerie aggravée et de faux et usage de faux également. Les enquêteurs ont saisi à l'Assemblée nationale des documents laissant penser que les époux Fillon ont pu produire des faux pour justifier les salaires de Pénélope Fillon. Et puis décidément, François Fillon ne s'en sortira pas. Selon le Canard enchaîné du jour, le candidat de la droite à la présidentielle aurait touché 50 000 dollars pour organiser deux rencontres entre un industriel libanais, le PDG de Total et Vladimir Poutine. Toujours selon le Canard enchaîné du jour, Pierre Moscovici s'est lui aussi fait offrir des costumes de luxe par un ami. L'Hebdo précise toutefois que les faits sont antérieurs à 2012, c'est-à-dire lorsque les parlementaires n'avaient pas à déclarer de tels dons. Ça rappelle un petit peu le mouvement contre les radars il y a quelques années. 200 collectifs et associations appellent à un rassemblement national aujourd'hui, en fin de matinée, devant la Maison de la Radio à Paris. Rassemblement contre les compteurs Linky, installés par EDF depuis maintenant 2 ans et qui visent, à terme, à remplacer 35 millions de vieux compteurs. Ces nouveaux appareils dits intelligents permettent de relever à distance et en direct la consommation d'électricité, de gaz, d'eau. Leurs détracteurs redoutent notamment des risques sanitaires ainsi qu'une intrusion dans la vie privée au travers de l'utilisation de données personnelles. Le géant pétrolier d'État Petrobras, au cœur du plus vaste scandale de corruption de l'histoire du Brésil, a dévoilé des pertes de plus de 3,5 milliards d'euros. Alors ceci dit, c'est mieux qu'en 2015, moitié moins. Volkswagen, Renault et puis maintenant Fiat Chrysler, le groupe italo-américain est à son tour visé par une enquête des juges d'instruction parisiens sur des soupçons concernant les dispositifs de contrôle aux émissions polluantes de véhicules diesel. C'est une performance qui dure depuis maintenant 15 ans et qui n'a pas spécialement de quoi réjouir les parisiens. La capitale française parade une fois encore dans le top 10 des métropoles les plus chères du monde, selon le classement publié par The Economist Intelligence Unit, filiale du célèbre hebdomadaire britannique. La palme revient à Singapour d'abord, pour la 4e année d'affilée, suivie de Hong Kong et de Zurich. Et puis au 7e rang, ex aequo avec Genève, on trouve Paris. Paris qui est la seule ville de la zone euro à figurer dans le peloton de tête. Un dernier mot pour vous dire que désormais, le casque est obligatoire à vélo pour les enfants.
Merci Thierry Paré, à tout de suite.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
Qu'est-ce que je dois te dire? Mais qu'est-ce que je fais là?
Qu'est-ce qu'on a ce matin? Vous êtes un tout petit peu renseigné? Vous avez juste lu l'étiquette qu'il y avait sur votre bouteille de shampoing? Vous avez lu de la presse? Vous avez allumé des ordinateurs? Vous vous êtes renseigné en bas? Dans le métro, vous avez posé des questions aux autres gens?
Non, moi je pose...
Moi j'ai lu de la presse.
Qu'est-ce que c'est que...
Oui. Moi j'ai lu à fond de la presse.
Ouais. Et on peut parler de tabagie à votre sujet?
Ta magie. Non, ça va, j'ai arrêté.
Qu'est-ce que vous avez vu ce matin qui vous pourriez partager dans un geste, Auguste ?
Eh ben, j'ai vu, je sais pas si je vais réussir à tenir cette voix. J'ai vu que les araignées, en fait, mangeaient plus de viande que les êtres humains. J'ai vu ça sur le monde de la science.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Science monde.
Les araignées,
mais en fait, les araignées représentent 25 millions de tonnes, si on prend toutes les araignées du monde.
Ouais.
Oui. Et les humains, c'est 287 millions de tonnes. Et les hommes mangent 4. C'est chiant, cette voix.
Mais c'est-à-dire, ouais. Ça discrédite l'info. Moi, j'y crois moins forcément, si c'est ce personnage-là.
On dirait un mec qui va de l'argent aux impôts.
Moi, j'aime bien cette information.
D'accord. Donc, les chiffres sont bien.
Les hommes mangent 400.
Et puis, dès qu'on dit le mot araignée, ça tilte. C'est un animal qui intéresse les gens.
Les hommes mangent 400 millions de tonnes de viande.
Celle-là non plus, comme voix, j'aime pas trop.
Non, mais attendez.
C'est ma vraie voix.
Il faut qu'on arrive au bout de cette information. Elle le mérite.
Et les oiseaux mangent 70 millions de tonnes de viande. Les baleines, en tout, toutes les baleines, 204. Ouais, par an.
D'accord.
280 millions, entre 285 et 500 millions de tonnes. Et les araignées mangent entre 500 et 800 millions de tonnes de viande, ce qui fait qu'elles mangent plus de viande que nous.
On en conclut qu'elles sont plus nombreuses, qu'elles sont plus gourmandes en viande ou qu'il n'y a pas de mouvement veggie chez les
araignées. C'est ça, il n'y a pas de véga.
En fait, ce que j'aime, c'est poser les constats et ensuite vous faites la philosophie.
Ah, la philosophie. Oui, vous voulez.
Est-ce que certaines des araignées mangent de la viande qui elle-même a mangé de la viande ? Ça fait beaucoup de millions de tonnes.
Oui, parce qu'en fait, elles représentent l'alimentation exclusive aussi de 10 000 espèces. Donc ça s'appelle la chaîne alimentaire, en fait.
Mais comment fait l'araignée, ouais. Elle va chez le boucher et dit oh, salut, je voudrais de la viande.
Non, vous allez trop loin. Où commence la viande, où finit le légume, puisqu'on s'est aperçu que certaines carottes, lorsqu'on les tirait de la terre, émettaient des petits sons qu'on pouvait prendre pour des cris, vous savez.
Tiens,
dites-toi, vous qui vivez arrêtez de passer à la suite, je vous parle de ça.
Moi, je vis en ruralité.
Qu'est-ce que vous avez constaté sur la viande ?
La viande se fait sécher, mais les araignées sont dangereuses parce qu'on peut être pris dans leur toile. Toutes nos femmes sont des araignées.
Ah, bah, bravo.
Mon Dieu,
c'est
misogyne.
7h13. C'est un peu plus tôt que d'habitude, je crois.
C'est un premier dérapage misogyne.
Les araignées, disons qu'elles utilisent le piège pour séduire, évidemment. Elles se parfument et autour, les hommes se mettent.
Après un dérapage misogyne, il peut y avoir quoi d'autre ?
Quelque chose de plus.
Vous n'avez pas des accents, Atmen, ce matin ?
Thomas Baumgartner. Bonjour, tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu de la cité de Fleury-Mérogis, mais on en viendra.
Bravo. Merci.
Super.
Thomas.
Ouais, 7h13 toujours. Et non, oui, dans le monde, c'est vrai qu'il y a le monde science, c'est un beau supplément du monde qui est dans le monde daté d'aujourd'hui. J'ai appris qu'il y a des scientifiques qui avaient développé une surface qui élimine les gouttes d'eau de condensation. En développant des micro-pics microscopiques qui sont des cônes de 115 nanomètres de hauteur et séparés de 52 nanomètres. C'est tout nouveau. C'est-à-dire qu'un support où il n'y aurait plus de condensation.
Donc, si on passe du froid au chaud, du sec à l'humide, voilà. Ça ne...
Si on souffle sur le support comme ça, et puis il n'y a pas de...
Pas. Voilà. On souffle sur des...
Ils sont inspirés.
Sur des lunettes, par exemple.
Par exemple, ça pourrait servir à des lunettes. Ouais, ou dans des avions, enfin je ne sais pas. Là
parce
où
que pour voir par la fenêtre de l'avion.
Par exemple.
Oui.
Et ils sont inspirés d'insectes, de moustiques qui n'ont jamais de condensation sur leurs yeux.
Qui
comme moustique, je ne connais pas personnellement.
Je sais pas. Enfin, le besoin. Il y a des gens qui ont pas. C'est vrai que la condensation, ça peut être chiant dans des câbles. Des fois.
Vous souffrez de condensation, vous ?
Moi, je souffre un peu
personnel.
De condensation de temps en temps. Ouais,
oui. Votre corps.
Je condense un peu, puis je suis embêté.
Moi, je suis bien comme premier plateau. Je crois que il me faut une petite pause musicale.
Oui, moi, je
parce que là,
on aurait pu aller plus loin.
Beaucoup appris. Moi, on y revient. C'était lourd. C'était
ouais,
plein.
C'est dense.
C'était bien.
C'est condense.
Le temps que les gens notent toutes ces infos, voilà. Je peux vous dire qu'après
et
ça.
Et qu'ils nous les renvoient, d'ailleurs.
Ouais, oui. Merci. Merci à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la pub à Radio Nova ? Un grand débat du Club des Connoisseurs. Le Club des Connoisseurs, ils n'ont rien lu de ce qui se passait. Ils vivent entièrement enfermés avec des œillères. Leurs dernières infos remontent à 1972. Et ils constatent quand même qu'il y a beaucoup de publicité. Alors, pourquoi il y a beaucoup de pubs ? Pourquoi on a cette sensation de publicité très forte ?
Je crois que c'est comme la météo, il y a du ressenti. C'est comme quand il fait froid, et le froid ressenti. On ressent de la publicité, alors qu'il y en a finalement assez peu.
Il n'y en a pas plus, mais le niveau de qualité de ce qui se dit en dehors de la publicité et de la musique est tel que ça fait un appel d'air.
Vous pensez aux animateurs ?
Je n'aime
en particulier
pas
ce mot.
Je ne pense pas qu'il faille animer les shows. Non. Je pense que
les accompagnateurs,
très chargé, la publicité en jeu.
Peut-être des vibreurs. Moi, j'irais plus des vibreurs que des animateurs.
Metteur en vie, je dirais. Je dirais metteur en vie. Je dirais réveilleur de l'âme.
Ah,
je
vous
dirais,
pensez. Oui.
Je dirais.
Vous pensez à Yacine Bellatar.
Lorsque j'étais, si vous voulez, artiste capiculteur, qu'on appelle aussi coiffeur, je conçois l'autre comme un tout. Je ne prends pas. Je ne cherche pas à animer l'auditeur. Je ne crois pas que l'auditeur existe non plus.
Comme on n'anime pas des cheveux, vous aviez des bouquets de cheveux.
Des bouquets de cheveux. C'était, je suis un paysagiste du corps et sur l'âme aussi. Mon idée, c'est de parler vraiment à
mais
l'âme.
Mais vous aviez quoi comme école? C'est plutôt le jardin français, le jardin
anglais. Le nôtre, moi, je dirais. Oui, bah, je regarde le visage de l'autre en tant qu'apiculteur et à partir de là, j'essaie de tracer des plaintes, des déliés. On peut travailler à l'anglaise, on peut travailler aussi sur un jardin plus japonais dans le cas de quelqu'un comme vous qui aurait oublié ses cheveux chez lui. Et là, on est dans les purs, on est dans la minéralité. Hein, parce que c'est
et vous collez, je crois, des petites pierres pour.
Oui. Mais pour revenir à l'animation auditive. Hein,
Bien sûr, une sorte de jardin auditif.
Oui. Je crois que vous aussi, vous êtes très attaché, je sens votre façon de parler au micro, Arnaud et Marc, vous parlez plus à l'âme et au cœur des gens qu'à leurs
oreilles. J'essaye de transpercer, de transpercer le lobe et la surface pour parler directement.
Directement là, mais je dirais que l'âme. Vous êtes un humain, vous êtes un grand humain.
Je suis plus qu'un humain, je suis un surhumain, enfin un surhumain dans le sens.
Un transhumain, âme. Vous traversez.
Un transhumain, voilà.
Vous croyez dans un ping-pong spirituel avec les gens.
Je pense, j'adore le ping-pong, c'est vrai. Ouais.
Vous êtes un pongiste du cœur et à corps et à cri, et au cul la vieille, c'est le printemps.
Je pense que l'intérêt, c'est pas de gagner, c'est vrai, d'échanger des balles avec son adversaire.
C'est bien envoyer la balle afin que l'autre vous la renvoie et non pas essayer de marquer tout le temps.
Non.
Pas gagner, parce que quand on gagne, on finit seul.
C'est vrai, c'est ce que Socrate, quand il est sorti de la caverne, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Alors j'étais pas là, mais des gens m'ont raconté.
Il était seul, il s'est retrouvé seul, sage mais seul.
Sage mais seul, tandis que nous qui sommes cons, nous sommes très entourés.
Mais très propres.
Très propres quand même. C'est important parce qu'on est très nombreux dans ce studio.
Oui, et un petit déo de temps en temps.
C'est très important, il y a des bougies parfumées, on est vraiment, qui viennent de mon salon de coiffure. Donc, parler aux âmes de l'auditeur, essayer de... La publicité, il y en a des très belles. Hier, on a vu une déesse, Inès de la Fressange,
on a Lidl qui vient souvent.
Oui, alors on a des voitures.
Des automobiles, oui.
On ne peut pas dire que les gens ne soient pas... Il y a une proposition. Hein. On part dans la rue avec Jacques souvent, Diogénie, qui n'en peut plus de cette discussion. On y reviendra. Jacques souvent, dans les rues de Toulouse.
Ça se réveille doucement, Toulouse, là.
Ouais.
Il n'y a pas grand monde.
Ouais, mais il suffirait d'une personne, il suffirait de presque rien.
Il suffirait d'une personne. Alors elle est très belle, Toulouse, quand même. Elle est courbe. C'est une ville qui a des rues assez courbes.
Elle est féminine, c'est une ville femme, vous dites elle.
C'est assez intéressant parce que...
Parce que la ville rose...
C'est assez en ligne droite, ils ont tout taillé. Et ici, on se balade un peu dans la rondeur.
Il n'y a pas eu de Haussmann toulousain qui aurait percé des avenues, des boulevards et fait des angles droits.
Non, c'est un peu comme Amsterdam. Ça modifie la pensée, hein, de cheminer comme ça dans la rondeur.
J'aime bien les villes qui font penser à autre chose. Vous, personnellement, vous me faites penser au Mont-Saint-Michel, Jacques, souvent, quand je vous vois.
ouais, peut-être. Ouais. Je vois pas trop d'eau autour. Hein, mais... Puis, il y a une chose sympa ici, je n'ai pas compris pourquoi encore. Il y a des petits immeubles là, en petites briques rouges, très sympathiques. Et en bas des immeubles, il y a des poignées, vous savez, comme pour frapper aux portes. Alors je vais en faire une là.
Ah, vous êtes en train d'emmerder les gens.
Hein, ouais. Et là, ce qui est étonnant, c'est que je cogne à la porte d'un immeuble, en fait, pas donc, à la porte de plusieurs habitations. Personne ne doit entendre cette.
Mais vous cherchez ce qu'on appelle chercher les problèmes, quoi. Hein,
je recommence.
Tu cherches la baston, quoi. Jacques souvent est en train de frapper à une porte d'immeuble à Toulouse. Survivra-t-il à cet incident?
Voilà, je suis au 6 rue des Arts.
Alors, si vous habitez le 6 rue... Ah, mais ils n'écoutent pas Radio Nova à Toulouse, ils ne l'ont pas.
Non, ils ne l'ont pas, ils regrettent.
Ah, bah c'est vraiment idiot, parce que ça serait formidable.
Oui.
Alors, pourquoi vous avez choisi cette adresse? C'est vraiment le hasard?
Oui, bah, toujours le hasard, vous savez.
Quand on frappe à une porte d'immeuble à 7h23, qu'est-ce qui peut se passer au mieux et au pire?
Bah, un volet peut s'ouvrir, par exemple. Là, c'est fermé, il y a des volets blancs.
Vous pouvez hurler « à boire !»
Oui, attendez, je vais essayer le 4 déjà, parce que le 4, il y a une autre...
Non mais criez dans la rue « à boire !»«
À boire !» Oh, ce que j'ai soif, nom de Zeus.
C'est bon, ça doit être bien la rue des Arts à Toulouse.
Ah, monsieur. Non, fermez pas le rideau.
Ah, les mecs sont terrorisés, parce qu'ils appelleraient au secours, s'inquiéteraient, mais à boire, c'est bien. Donc...
Non, personne. Un café.
Tentez autre chose. Hurlez, je suis nu.
Rien,
Ou à un poil, comme au théâtre.
Non, vous ne me ferez pas faire n'importe quoi, Corbert.
Jacques, souvent, on est parti de très peu, on est arrivé à rien, mais ça s'est très bien passé.
La route soleil, le soleil tape la briquette rose.
Elle est superbe. Oui. Ce sont ces briques roulées par la Garonne. Mais merci pour ce moment de presque rien, oui. De je ne sais quoi.
Bah, écoutez, il va se passer quelque chose, forcément.
Il se passera quelque chose et ça sera sans nous. Merci, Jacques, souvent. À tout à l'heure.
Plus près de toi, 7h-9h.
C'est où déjà plus près de toi? Tu savais, non?
C'est un petit peu partout et c'est aussi à Montpellier. On est en ligne avec Marius et Kamel, nos amis grossistes en fruits et légumes du marché de Montpellier. Bonjour les gars, dites-moi, c'est l'arrivée du printemps? Ça donne quoi aux fruits et légumes? Je parle un peu faux.
L'arrivée du printemps, ça donne quoi? Ben, au revoir le poireau, enfin.
Au revoir le poireau, enfin. Y a eu, tu as senti un ras-le-bol sur le poireau?
Ouais, j'ai senti un gros ras-le-bol.
C'est Hakim au téléphone?
C'est Hakim, oui.
Salut Hakim. Donc, tu as senti quoi? Comment ça se retourne contre vous quand vous avez des gens qui viennent se fournir chez vous? Vous êtes grossiste, donc ce sont des magasins, ils voient qu'il y a encore du poireau. Vous sentez une tension, une nervosité? Il y a des gens qui ont envie de vous empoigner?
Non, parce que c'est atténué par le fait qu'il y ait la fraise et l'asperge qui arrivent.
Voilà.
Et qui, qui radoucit un petit peu cette aigreur contre le poireau.
Donc ça, mais c'est plus court la saison de la fraise avec le poireau, c'est vraiment, on s'en est pris pour 6 mois là.
Oui, voilà, c'est ça, mais bon, après la fraise, il y a les cerises qui arrivent juste après. Après, on a les pêches, les abricots.
Oh. En fraise, voilà. Tu travailles quoi? On est sur de la gariguette, on est sur de la quoi?
Gariguette en précoce, après on essaie de faire des variétés gustatives comme la sifflorette, la charlotte.
La sifflorette?
La sifflorette, douce et fondante en bouche.
Ah, dis donc, tu la vends bien. La Mara, c'est la femme. La Mara, c'est quasiment de la fraise des bois, ça, non?
C'est de la fraise des bois, avec un vrai goût de forêt, de bois en bouche.
Une envie de se rouler avec des sangliers dans de la boue, quand on prend une Mara, par exemple?
Pas jusque-là, après je sais pas quel délire tu as toi, Edouard.
Je cherche à associer des sensations gustatives à d'autres types d'expériences sensorielles.
Mais on peut, oui, on peut se rouler avec des sangliers, avec la fraise des maras des bois. J'ai jamais vu ça, mais on peut.
Non, mais enfin, c'est dans l'imaginaire, bien entendu. L'asperge, on est sur de l'asperge de sable, on est une asperge qui vient d'où?
De l'asperge du sud-est et du sud-ouest.
Donc vous travaillez le produit de chez nous, vous travaillez du produit français, les gars?
On essaie de travailler surtout du produit français autour de chez nous.
D'accord. Est-ce que tu sens il y a une gaieté, par exemple, quand vous allez voir les agriculteurs qui vous fournissent, ils sont contents de voir arriver tous ces nouveaux fruits et légumes du printemps?
Ah oui, ils sont super contents. Ils sont super contents parce qu'il y a beaucoup plus de diversité. Et les producteurs, en général, en France, travaillent beaucoup mieux d'avril en septembre, où c'est leur grosse saison, en fait, finalement.
Ils se vendent beaucoup plus. C'est un petit peu l'équivalent des jouets à Noël, les fruits en belle saison.
Exactement, avec des produits qui sont relativement chers. Hein. Quand on voit le prix de la fraise, le prix de l'asperge. Donc ça valorise un petit peu leur travail de l'année, on va dire.
Très bien. Alors, il y a Eugénie qui n'était pas contente, elle s'énerve contre certains fruits et légumes. Il y a un côté un peu ménagère chic que j'aime bien. Eugénie, gueuler un peu.
Non, alors, moi j'ai un vrai problème avec les légumes oubliés, justement. Est-ce que le printemps, ça marque la fin de tous ces légumes qui nous emmerdent un peu, genre topinambour, chou de Bruxelles
Oui, on essaie de les camoufler, mais on est un peu, je travaille avec encore un petit peu, un ou deux mois.
Encore un ou deux mois.
Il y en a encore qui le demandent.
Et la courgette, elle revient quand?
Ah, la courgette, elle arrive à la fin de la semaine.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Non, parce que c'est des légumes qui sentent l'huile d'olive et tout ça, alors que ceux d'hiver, c'est des trucs à base de bouillon, de machin, de pot-au-feu.
On va les laisser.
On va vous laisser. Pour un pot-au-feu,
c'est combien?
Et votre
coup de gueule contre la courge, j'aime bien quand tu t'énerves contre la courge.
Ah, la courge. La courge, elle me fait chier. Je ne sais pas quoi en faire de
tout ça.
Parce qu'en plus,
c'est radical.
C'est une émission de prise de parti. C'est fort en gueule ce matin.
En plus, c'est une grande famille. Elle a toutes sortes de cousines, de cousins. Alors je trouve ça hyper joli à regarder. Mais c'est impossible à couper.
Elle a fait un master en légumes ou quoi?
La soupe de petit marron n'a pas de goût.
Voilà, vas-y, déchaîne-toi, on en a marre des cris de petit marron, des conneries.
Il y a plein de pépins, enfin bon, Hakim, écoute, je sais pas, quand est-ce qu'on dîne ensemble?
On va encore recevoir des
coups de fil. C'est encore une semaine ou deux et on arrête les...
On arrête les conneries et les légumes oubliés, continuez de les oublier, merci beaucoup, au revoir les gars. Thierry Paré, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Est-ce qu'on vous envoie la fameuse musique du journal?
Allez,
vas-y!
La courge est fourbe.
7h31, le rappel.
Nous sommes le mercredi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, l'occasion de rappeler un triste constat. Hein, alors que l'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit fondamental par l'ONU, dans les faits, 3 à 4 milliards d'êtres humains n'auraient pas accès à l'eau potable. 200 collectifs et associations appellent à un rassemblement national en fin de matinée aujourd'hui devant la maison de la radio à Paris. Rassemblement contre les compteurs Linky, installés par EDF. Ces nouveaux appareils, dits intelligents, permettent de relever à distance lancer en direct la consommation d'électricité, de gaz et d'eau. Leurs détracteurs redoutent notamment des risques sanitaires ainsi qu'une intrusion dans la vie privée au travers de l'utilisation des données personnelles. 3 mois et 15 jours, Bruno Le Roux sera resté 3 mois et 15 jours à la tête du ministère de l'Intérieur. Il a démissionné hier, remplacé par Mathias Fackel, jusqu'ici secrétaire d'État au commerce extérieur. Bruno Le Roux a été contraint de tirer les conséquences des révélations sur l'emploi de ses deux filles à l'Assemblée nationale alors qu'elles étaient mineures. L'enquête sur l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale est élargie à des faits d'escroquerie aggravée et de faux et usage de faux. Les enquêteurs auraient saisi des documents laissant penser que les époux Fillon ont pu produire des faux pour justifier les salaires de Pénélope Fillon. Et puis décidément, selon le Canard enchaîné du jour, le candidat de la droite à la présidentielle aurait touché près de 50 000 euros pour organiser 2 rencontres entre un industriel libanais, le PDG de Total et Vladimir Poutine.
Ouais.
Toujours selon le Canard enchaîné, Pierre Moscovici se serait lui aussi fait offrir des costumes de luxe par un ami. L'Hebdo précise toutefois que les faits sont antérieurs à 2012, c'est-à-dire lorsque les parlementaires n'avaient pas déclaré de tels dons.
Bonjour monsieur Moscovici, il vous plaît le costume ?
Oh bah oui, oui, c'est pas mal.
C'est payé. Hein.
Ah c'est payé ?
Alors c'est payé.
Donnez-moi en 3 alors.
Oui c'est payé. Il peut s'indigner un peu au début, révoltez-vous.
Oui, bah, c'est payé, mais je ne sais pas par qui moi.
Non, bah, c'est payé.
C'est un ami.
C'est un cadeau.
Il paraît que Philippe Poutou, il y a un scandale, s'est fait offrir pour plus de 200 euros de pantalon Célio aussi.
Volkswagen, Renault et maintenant Fiat Chrysler, le groupe italo-américain est à son tour visé par une enquête des juges d'instruction parisiens sur des soupçons concernant les dispositifs de contrôle aux émissions polluantes de véhicules diesel. La Corée du Nord aurait tenté sans succès ce matin de lancer un nouveau missile ce matin.
Le géant pétrolier... Oh merde, il est tombé. Je mime toutes les
années. C'est raté. Le géant pétrolier d'État Petrobras, au cœur du plus vaste scandale de corruption de l'histoire du Brésil, a dévoilé des pertes de plus de 3,5 milliards d'euros. Alors ceci dit, c'est mieux qu'en 2015. C'est moitié moins. L'Allemagne ouvre aujourd'hui la voie à la réhabilitation et l'indemnisation de quelques 50 000 hommes condamnés pour homosexualité sur la base d'un texte nazi resté en vigueur longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Et puis sachez pour finir que désormais le casque est obligatoire pour les enfants à vélo. Une infraction en la matière vous coûtera plus de 100 euros.
Oh, regardez qui vient nous voir, regardez. C'est tout cancan.
Attendez les enfants.
Tout cancan.
Bonjour.
Tu es vraiment l'ami des enfants.
Oui, j'adore les enfants parce que je trouve qu'ils sont vraiment laisse-moi parler.
Calme-toi, tout cancan. Tu es très vitaminé. Tout cancan, tu as vu que les enfants doivent mettre des casques à vélo maintenant?
Attendez,
je remets ces consonnes à tout cancan. Tout cancan, remets ton dentier. Voilà. Et là, on a toutes tes consonnes. Tout cancan, tu penses qu'il faut mettre des casques à vélo?
Ah, il faut mettre des casques à vélo.
Est-ce que tu penses qu'il faut mettre un casque pour manger un petit Suisse au cas où, quand tu appuies dessus, la cuillère appuie fasse rebondir le petit Suisse et qu'il retombe sur la tête de l'enfant? Il faudrait mettre des casques aussi.
Moi, j'ai pas écouté.
Non, c'est... tout cancan, tu es le bienvenu.
Ouais.
C'est l'ami des enfants.
C'est l'ami des enfants, Adrien.
Pas du mien.
Et bien, du tien aussi, je viens le voir des fois la nuit, je vais faire des cauchemars.
Tout cancan, on va maintenant te faire très mal.
D'accord, vas-y.
Voilà,
merci à toi.
Merci. Et maintenant, la météo flamenco Fanti Franer. Attendez. Non, j'ai pas senti l'accroche. Je vous ai fait louper votre accroche, Tito. C'est vrai, hein, je vous l'ai fait louper, après vous alliez me le reprocher pendant 12 ans.
Lolaï, 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 lolaï. La Saint-Lao, la Saint-Lyon, la Saint-Louis. Enfin, bonne fête à Léa Drucker. Tu vois ? Alors, les températures seront à Angers de 3 à 11, à Bordeaux de 3 à 13, Évreux de 4 à 11, Reims de 3 à 13, Tours de 4 à 12, Paris de 4 à 13, Metz de 4 à 12, etc. Alors, il pleut partout, il fait des nuages partout, sauf à Nice. La 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 la.
C'est le jeune stagiaire Léo.
Oh, Léo.
Ça va être top.
ta fête.
Oh, ça va être dis ta donc, fête. Patrick Sébastien.
Mais non,
Léo, c'est ta fête. Alors, oui. Contrairement à l'anniversaire, on ne demande pas son âge pour sa fête.
Non, non, c'est pas. Alors, c'est Léo ou c'est Lio?
Non, Léo. Vous embrouillez notre Léo avec la chanteuse Lio. Celui qui a dit. Les brunes comptent pas pour des prunes, ça n'est pas le stagiaire Léo, c'est la chanteuse Léo.
Mais oui, mais bon,
Léo, tu voudrais faire un message pour ta Saint-Léo?
C'est la Saint-Léo, j'étais même pas au courant. En fait.
Voilà, mais c'est très beau, oui. C'est ça.
C'est ça. La modestie dans la fête.
Tu vas avoir une photo avec tout cancan. Et oui, est-ce que tes parents t'ont appelé comme ça à cause de Léo Ferré, à cause du lion Léo, parce que tu es léonin pour qu'on t'ait appelé Léo.
Moi, Léo, à cause de Léo Ferré, qui, pour tout dire, est mort une semaine avant ma naissance.
Eh bien voilà, un Léo meurt, un autre apparaît. Viens sur les genoux de tout cancan, ça va très bien se passer. On appelle tout de suite Jack Souvent dans la rue, ou Patrick Mille. On a plein d'appels à passer ce matin. Qui on a au téléphone, Eugénie? Patrick Patou? Patrick,
oui, oui.
Cher Patrick, ton film sort aujourd'hui.
Oui.
On connaît le track du réalisateur le matin de la sortie. Hein,
ben, on les connaît, oui.
Alors c'est ce magnifique film sur le Brésil, Going to Brazil, quatre jeunes filles perdues, une sorte d'homme de Rio moderne, mais au lieu d'être un homme, c'est quatre femmes, ce qui est scandaleusement racoleur, et tu as raison. Et on a envie de suivre leurs aventures dans les mystères brésiliens, dans cet érotisme... Que tu as su filmer, torride et permanent. Est-ce que tu vas faire des sorties de salle?
J'aimerais bien peut-être aller au Hall, mais j'hésite.
Non, on est parano.
On
est parano, on croit voir. Il suffit qu'il y ait une personne qui n'aime pas, même si on a 100 qui aiment, c'est celle-là qu'on voit.
C'est vrai. Pourtant, j'avais envie de leur payer des caipirinhas. Après, la caipirinha à 10h du mat', c'est peut-être un peu indigeste, mais bon, ça plus tard.
Si tu as envie, toi, d'en boire, ne prends pas en otage les spectateurs de ton film. Going to Brazil, donc, tu t'es beaucoup baladé avec à travers la France pour le montrer?
J'ai fait une belle tournée province. J'ai même été jusqu'à Austin, Texas,
au
festival de South by Southwest. Ouais. Et bon, voilà, donc là, je suis un peu... complètement mort, fatigué et tout, mais voilà, enfin quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse après?
C'est comment Austin, Texas?
Ah, c'est génial, c'est une ville incroyable.
Qu'est-ce que tu nous donnes? Deux, trois bonnes raisons d'y aller.
La margarita.
Non, c'est une obsession, oui.
Si tu parles espagnol, tu peux te faire comprendre, même si tu parles pas bien.
Donc c'est ta version trumpienne, tu trouves que... Alors c'est des villes, c'est vrai qu'ils parlent... Je crois que Los Angeles aussi, l'espagnol est plus parlé que l'anglais, Los Angeles.
Ouais, comme au Texas, ouais. Non, puis c'est une ville très très cool, c'est une ville de musique, il y a de la musique partout, live tout le temps, et que du très très, très lourd. Les gars savent très très bien jouer tout le temps.
Bon, alors Going to Brazil, ton film va suivre son destin qu'on lui souhaite heureux.
Mais vous revenez du Brazil, lui, il faut dire aussi un petit peu où est-ce qu'il a tourné, Going to Brazil. Parce qu'il y a le scandale de la viande là en ce moment.
À Rio, alors Rio?
Ben, Rio, non mais Rio, cette ville de l'improbable, de l'impossible. À chaque coin de rue, tu peux rencontrer une surfeuse sublime comme un mec qui te braque.
C'est souvent la même personne.
Oui.
Quoi d'autre? D'autres villes? Tu es allé dans le Nord-Est? Tu es allé...
Dans le film, elles traversent le Brésil, elles vont jusqu'en Amazonie. Mais moi, je suis resté un peu autour de la région de Rio, où on a pu faire la blague, quoi. Faire la rue Michel.
La rue Michel, et elles sont allées jusqu'à Manaus, cette ville où à l'opéra, on met exprès la clim très fort pour que les dames de la bourgeoisie de Manaus puissent mettre leur manteau de fourrure.
Exactement.
Eh bien, mais on souhaite le meilleur à Going to Brazil, mon cher Patrick.
Oui, mais c'est gentil.
Allez le voir deux fois par personne.
Voilà, et à partir de 9h10 au Hall, il y a une séance. Voilà.
Très bien. Ou ailleurs, parce que c'est distribué dans toute la France.
Au Gaumont-Wilson à Toulouse, que j'embrasse.
Tudo Sportfish.
Alors.
Tous les Toulousains, je les embrasse.
Fais-nous des quelques vœux en portugo-brésilien.
Ah oui, bah alors ça, mes amis, je vous invite à voir tout à fait le film Going to Brazil dans tous les beaux écrans de la France. Total, et ça va être très très joli. Vous allez rire, vous allez avoir peur, vous allez voir des jolies filles, vous allez voir des paysages magnifiques, vous allez voir du cinéma.
Merci Patrick. À bientôt. Oui, Atmen.
Non, pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que cet accent?
Oh, je ne sais pas, mon vieux.
Je vous embrasse, Patrick.
Je suis un peu perdu, les accents.
Oui, ça va, ça vient. C'est le grand tout ça. C'est ça qui est formidable. Merci.
Merde pour le film.
Salut, camarade.
Oui, je prends. Je vous embrasse.
Bonne journée. On continue à voyager, on repart à Toulouse retrouver Jack Souvent. Jack Souvent, on l'avait laissé devant un immeuble en train de hurler à boire il y a un quart d'heure, ça donne quoi?
Ouais, bah, je me suis calmé, j'ai bu un petit coup.
On vous a ouvert ou pas, non?
Non, on m'a pas ouvert, mais je suis rue Astor, j'ai continué. Il y avait un immeuble avec un immeuble d'habitation, il y avait une dame qui arrosait ses plantes. Alors je lui ai fait coucou, elle m'a dit « mais on se connaît !» Et j'ai dit « bah peut-être !» Et puis j'avance, et puis j'ai rencontré Mathieu. Je suis avec Mathieu, qui est un ancien footballeur de Ligue 1 de Grèce, Ligue 2 ou ça
En France.
En France, Ligue 2 en France, et qui maintenant a une société de ménage, et il était en train de nettoyer les parties communes d'un immeuble.
C'est ça, bonjour tout le monde.
Bonjour Mathieu. Mathieu, bonjour. À quel moment vous avez dit le foot c'est bon, j'arrête? Il y a eu quoi? Il y a eu des claquages? Il y a eu pourquoi?
Quand je commençais à courir un peu moins vite en fait, et je me suis dit bon mon gros il va falloir te recycler, et donc ben voilà, j'ai mon ex-compagne qui était gestionnaire de Copro, donc je me suis tourné vers le nettoyage.
Et dites-moi Mathieu, souvent c'est vrai on se parle à soi-même en disant mon vieux, mon salaud, vous vous appelez mon gros, mais c'est lié à une réalité physique ou c'est un peu affectueux?
Non, pas du tout, demandez à Jack, ça va, je suis plutôt correct.
Et quand vous aimez beaucoup, vous vous appelez comment? Mon chéri, mon matou?
Bon, bah, je vous laisse...
bon, choisis, et votre compagne...
Votre imagination, en fait.
Elle vous appelle comment, votre compagne, Mathieu?
Mon cœur.
Oui.
Voilà.
Mais il n'y a pas tout le temps, il y a des moments où ça...
Bon, mon cœur, mon chéri, mon... voilà, quoi, ouais, je sais pas trop, vous me prenez un peu de cours, en fait.
C'est l'idée. Nous, on est réveillés depuis tellement tôt que c'est la fin de journée pour nous. Mathieu,
Mathieu m'a raconté aussi que dans les matchs et dans les clubs pro comme ça, les propriétaires des clubs de Ligue 2, sont souvent des propriétaires immobiliers et donc ils vous refilent des contrats.
Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça que je me suis lancé aussi un peu là-dedans et je me suis servi un peu du foot comme levier pour voilà, pour prospérer, on va dire, dans les affaires.
Vous vous êtes dit, à l'époque, j'en ai marqué des buts, tu peux bien me renvoyer un peu l'ascenseur, j'ai fait rouler ta machine.
Exactement, c'est ça.
Et être footballeur en terre d'Ovalie, comme Toulouse, c'est bien vu?
Ah, ça a été plutôt... c'est plutôt compliqué quand même, parce que c'est vrai qu'on n'est pas en terrain conquis, on va dire.
Bon, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Là, vous travaillez sur quoi, là, dans l'immeuble dans lequel vous êtes?
Là, j'étais sur... je nettoyais les parties communes, en fait, de l'immeuble. Voilà.
Escalier, hall, vous travaillez avec quoi? On est sur quoi comme produit d'entretien?
Oh, bah, du produit basique, tout ce qui est... tout ce qui va être nettoyant, odorant pour le sol, produit à vitre, et puis voilà.
Saveur lavande, c'est parfumé tout ça?
je crois que ce matin c'est parfum citronné.
Merci beaucoup Mathieu, parfum voilà. Citronné, ça sera le mot du matin. Bonne journée.
Allez, un peu de citron, ça fait de la pêche.
7h, 9h, plus près de toi.
C'est très bien la caipuera. On dit pas caipuera, on dit capou.
Je sais pas.
Et tu en fais depuis quand? Je suis avec Zach.
Depuis pas longtemps.
Depuis quoi? Depuis cette rentrée-là, tu en fais?
Ça fait que 2 semaines.
Ah oui, et comment tu pourrais décrire la capoeira pour quelqu'un qui connaîtrait pas?
C'est une sorte d'art martiaux, de musique et de danse.
Oui.
Il faut essayer de se battre, mais sans jamais...
Jean-Noël Mistral.
Bonsoir.
Oui.
Sans jamais se toucher, parce que c'est... Enfin, je pense.
C'est bien décrit?
Ça dépend. Quand on est fort, on se touche, oui, mais quand on est débutant, non.
Et les autres années, t'avais fait quoi? T'avais laissé tomber? T'avais fait d'autres sports et
Oui, j'avais fait karaté, j'avais fait piscine, j'avais fait clown moderne.
Clown moderne?
Oui.
Par rapport à clown ancien, c'est plus drôle ou c'est moins drôle qu'un clown ancien?
Je sais pas.
Qu'est-ce qu'ils font les clowns modernes? Ils font peur?
Non, ils font aussi des blagues. Mais...
Ils sont modernes, peut-être ils écoutent la musique moderne.
Oui, ah, tu penses que c'est ça?
Oui, quelquefois on écoutait de la musique.
Peut-être
aussi.
Ils ont des montres.
Peut-être qu'ils ont au lieu d'avoir des nez rouges, ils ont des nez d'autres couleurs.
Ils ont des
couleurs modernes.
Ils ont des iPhones.
Ils ont des iPhones rouges, je sais pas, Jean-Noël. On sait pas trop. Et le karaté et piscine, tu faisais ça ensemble? Tu faisais du karaté dans la piscine ou tu faisais...
Non, j'ai du karaté, tout ça, j'ai de la piscine, tout ça, et aussi d'autres trucs, mais je ne me rappelle pas de tout, du théâtre aussi.
Et tu penses que ça serait bien dans un monde moderne, par exemple, de mélanger les activités? Clown piscine
Ce serait un peu bizarre, mais oui.
Karaté clown? Ça donnerait quoi, Jean-Noël, karaté clown?
Ça donnerait, je pense, quelque chose de
des combats en faisant rire.
Oui. C'est si tu, je suis mort de rire, il y a bien l'expression être mort de rire. Hein, le fameux MDR que vous... Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Noël?
J'essayais d'illustrer en sonore, puisque c'est la radio, le karaté clown.
Qu'est-ce que t'en penses, Zach?
Oui, c'est vrai.
Bon, on va plutôt écouter un poème de Zach, Jean-Noël, avec vous. Et
pardon, je me suis laissé distraire.
C'est un grand classique de la poésie française, ça me fait plaisir, après des petites comptines qu'on a eues de temps en temps, d'avoir un grand classique. Quand tu veux, Zach.
Heureux qui communisse. Le Rocky Communis a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est d'une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le font audacieux, plus qu'une marbre dure me plaît l'ardoise fine, plus mon noir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Le chant du Bel Air, les regrets.
Superbe, bravo, bravo Zach. Sestuila, hein, Sestuila, toi tu penses que, qu'il faut continuer à le lire, tu préfères Sestuila ou celui-là? Tu penses qu'on devrait revenir au langage de la Renaissance?
Je pense.
Sestuila, ça vous...
Enfin, notre maîtresse, elle a laissé quelques mots en langage ancien, oui. Par exemple la douceur.
C'est joli de... Ça vous a touché, Jean-Noël, je vois beaucoup, beaucoup d'émotions.
J'ai vraiment les larmes aux yeux. C'est comme si mes yeux étaient devenus des torrents. Et j'étais conquis par la façon qu'il avait de chanter ce poème, qui tout d'un coup...
Mais qui explosait en mille saveurs dans sa bouche, vous me disiez, lors de la réunion préparatoire. Jean-Noël, je sais que vous êtes très attaché à ça, d'avoir un pied dans le présent, voire un autre dans l'avenir, et le troisième pied dans le passé.
C'est ça, pour pouvoir essayer de m'étendre. Même limite, je m'allonge.
Et c'est pour ça que la poésie dite passée est toujours très actuelle. Actualité du passé, c'est le titre de votre article dans Valeurs Actuelles. Jean-Noël, vous-même, vous avez un petit poème qu'on va écouter exact.
Oui, je ne suis pas très sûr de moi.
Celui-là. Ça sera peut-être de la merde, comme on dit vulgairement, mais ça sera avec le cœur.
Mais hein, il faut pas renier ce que vous appelez la merde.
Ah non.
J'appelle ça les excréments.
C'est un compliment.
Parce que la merde, c'est la façon de faire rejaillir la nature.
Et bien grâce entendu, à ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On vous écoute.
Oui, mais juste, je voulais dire juste par rapport à ça, avant de dire mon poème, oui, qu'il faut arrêter de conspuer justement ce qui sort de nous. Puisque c'est peut-être notre produit le plus...
D'accord.
Le plus...
Mais ce qui va entrer sur ta gueule d'ici 5 minutes... Non, pardon, Jean-Noël, comprenez bien que j'essaie de créer le contact à travers cette fausse violence.
À travers la violence.
Bien sûr.
Bien sûr, je comprends.
Dans la capoeira, il y a ça, il y a le contact, hein, Zach. Merci de me soutenir, mon vieux. On écoute Jean-Noël Mistral.
Le temps, c'est tout sauf de l'argent. C'est le titre du poème. De temps à autre... De temps à autre, quand je me réveille, le jour ou la nuit, et que je vois, après le monde de banquise du sommeil, bien écrit, la nature qui palpite en effervescence autour des bois, cette branche... Tu peux arrêter, Zach, s'il te plaît. Cette branche qui s'efforce à pousser et à tirer ses fruits vers le haut, et cette herbe qui s'étire pour s'écarter et pour s'emparer du soleil, et ces feuilles qui aspirent à capter les rayons du soleil, et ces lapins qui s'ébattent, et ces vers de terre qui rigolent de voir autant d'humus, ces glands qui tombent pour faire l'amour à la terre, même le vent qui pousse de temps en temps des quantités de drogue et de graines et de vitalité. Quand je vois tout ça, alors, je regarde mon corps. Et je vois la même chose. Je vois ces cellules qui glapissent, grandissent. Je vois... J'arrive pas à relire ça. Ses yeux, je vois ses yeux qui veulent voir, et mon nez qui s'étire à la moindre interaction, et mon cerveau, c'est pareil, et les idées qui veulent vivre, les sensations, etc. Enfin, je crois qu'on comprend. Alors, quand je regarde tout ça, quand je regarde vraiment tout ça au fond des yeux, je me dis que les gens de la ville peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais ils auront du mal à détruire...
Enfin, on voit l'idée, oui.
Ce qui fait que, à ce moment-là, oui, je rigole, je me dis. Et souvent, je regarde une feuille de fougère, et ensemble, nous discutons pendant des heures.
Merci, Jean-Noël.
On se dit, ouais, bon.
Jean-Noël Mistral, quel est votre cœur de cible?
Mon cœur de cible?
J'imagine qu'il y a un marketing derrière vos poèmes, donc il y a forcément un cœur de cible.
Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que j'ai mis comme son, juste après votre question, j'ai ri.
Vous avez ri, Zach, tu as été intéressé par le poème de Jean-Noël Mistral?
Oui.
Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être au programme à l'école l'année prochaine ou, d'ici, ou dans 50 ans?
C'est important.
Tu penses que... comment on pourrait qualifier la poésie de Jean-Noël?
Un peu bizarre.
Un peu bizarre, bizarre. Et le beau est toujours bizarre, mm-hmm. vous saviez.
Et mais je ne vais pas expliquer cette histoire de rire. Parce que le cœur de cible que j'ai rigolé, pourquoi? Parce que je suis au-dessus de tout, je m'en fiche du oui. cœur de cible. Moi je fais des poèmes pour les très arbres bien. Et les lapins.
On me fait signe qu'il faut couper. Au début c'était une seule personne et maintenant ce sont des foules entières qui me font des grands signes. Merci Zach, on te laisse aller à la non-école parce que tu n'as pas à école le mercredi.
Il
n'a
pas rencontré le toucan. Des enfants aiment bien le toucan.
C'était toucan-can tout à l'heure qui a été emprisonné depuis. Merci Jean-Noël.
Merci.
Je ne sais pas ce qu'on fait maintenant mais on va le faire bien.
De toi.
Quel physique. Il doit faire de la radio. C'est servi.
8h01, le journal de Thierry Paret.
Une minute de silence vient d'être observée à l'instant, à 7h58 précisément, à l'aéroport belge de Zaventem. Il y a tout juste un an, des attentats secouaient la Belgique, faisant 32 morts et des centaines de blessés. L'eau que l'on boit, celle qui irrigue les champs, qui sert à l'industrie, à la production d'énergie, qui part dans les toilettes, l'eau est partout un bien sous pression, car la demande explose, qui pourrait augmenter de 50% d'ici à 2030. C'est la journée mondiale de l'eau aujourd'hui. 3 à 4 milliards d'êtres humains n'auraient pas accès à l'eau potable, qui est pourtant un droit fondamental, selon l'ONU. 200 collectifs et associations appellent un rassemblement national en fin de matinée devant la maison de la radio à Paris. Rassemblement contre les compteurs Linky installés par EDF. Ces nouveaux appareils dits intelligents permettent de relever à distance et en direct la consommation d'électricité, de gaz ou d'eau. Leurs détracteurs redoutent des risques sanitaires ainsi qu'une intrusion dans la vie privée. Les Gudards sont les bienvenus au Front National. Le FN vient d'engager comme chargé de mission pour sa campagne Frédéric Chatillon, président du controversé syndicat étudiant d'extrême droite GUD dans les années 90. Chatillon a été accusé récemment d'antisémitisme. Il est considéré par la justice comme le personnage central du système organisé par le FN depuis 2011 pour ses campagnes électorales, ce qui lui vaut dans deux enquêtes distinctes un renvoi en correctionnel et une mise en examen. Pénélope Fillon a-t-elle rencontré les filles de Bruno Leroux à l'Assemblée nationale? Faut-il en rire ou en pleurer? Quoi qu'il en soit, on n'en a pas terminé avec les affaires. Loin de là, Bruno Leroux sera resté 3 mois et 15 jours à la tête du ministère de l'Intérieur. Il a démissionné hier, remplacé par Mathias Fekl, jusqu'ici secrétaire d'État au commerce extérieur. Bruno Leroux a été contraint de tirer les conséquences des révélations sur l'emploi de ses deux filles à l'Assemblée nationale alors qu'elles étaient mineurs. L'enquête sur l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale est élargie à des faits d'escroquerie aggravée et de faux et usage de faux. Les enquêteurs auraient saisi des documents laissant penser que les époux Fillon ont pu produire des faux pour justifier les salaires de Pénélope Fillon. Selon le Canard enchaîné du jour, François Fillon aurait touché près de 50 000 euros pour organiser deux rencontres entre un industriel libanais, le PDG de Total et Vladimir Poutine. Toujours selon le Canard enchaîné, Pierre Moscovici se serait lui aussi fait offrir des costumes de luxe par un ami. L'Hebdo précise toutefois que les faits sont antérieurs à 2012, c'est-à-dire lorsque les parlementaires n'avaient pas à déclarer de tels dons. Volkswagen, Renault et maintenant Fiat Chrysler, le groupe italo-américain, est à son tour visé par une enquête des juges d'instruction parisiens sur des soupçons concernant les dispositifs de contrôle aux émissions polluantes de véhicules diesel.
Et vous allez faire fuir la pub. Attendez, redites-moi le nom de ces marques.
Il y a eu Volkswagen.
Non, attendez, envoyez-nous vos pubs, donnez-nous votre argent.
Il y a eu des voitures, quoi.
Si jamais vous nous donnez des coups de fil pour pas qu'on donne ces infos, on est à vendre, bien sûr.
Exactement,
bien sûr,
exactement. Oui. Mais là, pour l'instant, j'ai rien reçu.
On a une éthique, mais en même temps, un petit peu d'argent, un petit costume, un voyage à Saint-Tropez.
On peut discuter. La Corée du Nord aurait tenté sans succès ce matin de lancer un nouveau missile. Le géant pétrolier d'État Petrobras, au cœur du plus vaste scandale de corruption de l'histoire du Brésil, a dévoilé des pertes de plus de 3,5 milliards d'euros. Alors ceci dit, c'est mieux qu'en 2015, moitié moins. L'Allemagne ouvre aujourd'hui la voie à la réhabilitation et l'indemnisation de quelques 50 000 hommes condamnés pour homosexualité sur la base d'un texte nazi resté en vigueur longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Désormais, le casque est obligatoire pour les enfants à vélo. Une infraction en la matière vous coûtera plus de 100 euros. Et puis il fait bon être norvégien, si l'on en croit l'ONU. L'Organisation des Nations Unies vient de publier son classement annuel des pays les plus heureux du monde. Et c'est la Norvège qui occupe pour la première fois le haut du podium. La Norvège qui détrône son voisin danois. Classé en quatrième position les deux dernières années, la Norvège a donc franchi un cap. Alors, comment on calcule, vite fait? En mesurant différents facteurs, bien sûr, tels que l'accès aux soins, la liberté individuelle, le niveau de vie, la générosité ou encore l'honnêteté.
Oui, l'info est importante. On a 100 euros d'amende si notre petit enfant...
Un peu plus même, je crois.
Mais c'est l'extorsion, ça. Moi, ma fille, elle fait du vélo, elle n'a pas besoin de mettre un casque.
Elle fera du pédalo, elle fera de la trottinette ou elle fera des croquettes avec vous à la cuisine. C'est comme ça, maintenant. Allez, filez-nous. Allez, vas-y.
Mais c'est la charia.
Bravo. Voilà.
Mais quand même,
voilà,
oui.
Voilà, le café du commerce. C'est fini le journal?
Oui, c'est
alors, c'est non, parce qu'on a une visite. C'est Plouganec, le clown breton. Plouganec.
Ah, ça va?
Oh, dis donc, qu'est-ce que tu nous fais rire?
Vous en connaissez du monde.
J'ai vu un poisson.
Bon, j'ai pas un parachute, je vais la bosser.
Alors, tu aimes bien les enfants?
Ouais, j'adore les enfants.
Et tu aimes aussi les crêpes et le cidre?
Oui, parce que je suis breton et les festins.
Oui. Tu crois que c'est vraiment une belle...
Oui, mais...
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment en est-on arrivé là? À une époque où il faut des voix fortes, des voix profondes, des voix d'autorité pour se frayer des espaces entre les costumes prépayés, les rencontres avec des enveloppes, une classe politique qui nous effraie, qui démissionne, qui s'invective, on a besoin de voix. Et tout à coup, on a Plouganec, le clown breton, très mauvais sketch, mal interprété, mal mis en scène, mal annoncé, mal entouré, mal mis en onde. Je crois que de toute cette médiocrité, tout cet à peu près, tous ces ratages quasiment poétiques, surgira une grandeur, une beauté. Et c'est celle-là qui arrivera à nous sauver de toutes ces laideurs et ces approximations morales. À tout de suite.
Voilà la prochaine.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Bouchta Saïdoun est notre correspondant à Marseille depuis le début de l'année. Et de plus en plus, les gens nous disent c'est formidable, mais qui est ce Bouchta? D'où vient cet esprit, cette faconde, ce mélange d'Afrique du Nord, de Marcel Pagnol? Pour moi, vous êtes le Marcel Pagnol moderne, parce qu'il y a un mélange de langue, d'humour et de poésie dans tout ce que vous dites, Bouchta. Et on a été très touchés et étonnés de voir débouler votre livre. Je voulais devenir un homme aux éditions de l'Harmattan, Bouchta Saïdoun. Et je sais que moi, je ne l'ai pas encore lu, mais Atmen qui l'a lu, on est sorti absolument touché, bouleversé. Vous avez beaucoup aimé Atmen.
Oui, comme on dit dans scénaristiquement, le meilleur terreau pour une comédie, c'est vraiment le drame. Et là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de drame qui est vraiment... excité, remanié par un humour décapant. Voilà.
Alors Bouchta, est-ce que
tu
nous raconterais un tout petit peu déjà quelle est la base de ta vie qui est la base du livre?
Ben, la base de ma vie, c'est que j'étais figurant dans une famille de 12 enfants, le 11e. Donc, ma mère a 6 filles, 6 garçons, tous les 10 mois un petit. Et moi, je suis le 11e. Et je suis arrivé quand il y avait plutôt beaucoup de courriers d'huissier, plus de vitamines, je viens à la fin, quoi. Et j'avais pas le choix. Avec ce que j'ai reçu, j'ai composé. Je veux dire, c'était une tartine de merde que j'essayais de faire un gâteau d'anniversaire. Et j'ai suivi mon parcours. Et je savais que j'étais dans la galère. Mais dans le regard de ma mère, je voulais partager sa misère. Et je disais, même si c'est la fin de même, c'est pas grave. J'additionne son âge et le mien, et ça ira bien.
C'est où? Ça se passe où, cette enfance?
À Marseille.
On est dans quelles années, alors? On est vers où, à Marseille?
Mes parents sont arrivés dans les années 50. Moi, je suis né dans les années 70.
Ils sont arrivés d'où?
D'Algérie.
Algérie. Donc, ouais. Dans les années 70, on est à Marseille.
À Marseille. Et mon grand-père a troqué son terrain agricole vers Bellabès, frontière marocaine, avec un pied noir qui lui a dit, écoute, je te troque 2 ou 3 hectares à la place de je ne sais pas combien d'hectares à Bellabès. Tu seras mieux là-bas, tu seras mieux traité en France, et c'est mieux pour toi. Et mon grand-père a dit ok, il s'est retrouvé dans le Var, à 2 pas de Saint-Tropez, mais à l'époque, il n'y avait ni Brigitte Bardot, ni partout. Et c'était un endroit qui s'appelle Pierrefeu. Et il s'est trouvé, il a acheté cette belle ferme, pas très chère, c'était 800 francs à l'époque, avec des cerisiers, des figues et tout ça, et voilà, il a pris
sa femme. Donc c'est vrai qu'a priori, au début, c'était pas une mauvaise affaire.
Non, c'était bien, ouais. C'était franchement malin des sources vers son couscous, quoi.
Exactement.
C'était très bien.
C'est vraiment du Pagnol, comme je disais hier, tu disais, Pagnol, Pasolini, il y a des portraits incroyables.
Pagnol et Pasolini, vous me disiez.
Voilà,
ouais.
Il y a l'imam Landolfi, il y a ce juif qui vous convertit à l'islam, et vous le décrivez très très bien. Il y a surtout, il faut en parler, il y a votre mère, il y a Khadija, qui très mal ses 6 enfants, qui fait des lessive, qui troque des... Enfin, qui est toujours en activité, qui a... Vous racontez que son corps est une immense blessure tout le temps, qu'elle souffre, mais qu'elle tient le coup. C'est incroyable. Et moi, il y a des épisodes comme ça. Il y a des scènes incroyables de ces enfants qu'on... Il y a une femme qu'on paye pour allaiter des enfants. C'est un épisode
qui s'appelle la prime de lait.
La prime de lait, voilà.
Parce qu'à l'époque...
Décrivez-le.
Ouais, la prime de lait, c'est que ma mère, je veux dire, c'était peu la vache de Normandie.
Voilà, c'est elle ça.
Des très beaux seins et du très bon lait.
Très bon lait, oui.
Et comme elle avait un bébé tous les 10 mois,
ouais.
Je veux dire, automatiquement, sa montée de lait venait avant que mon père la touchait.
Voilà, c'est ça.
Alors, elle avait un très bon lait. Et en clinique, à la conception à Marseille, comme ils ont vu qu'elle avait beaucoup de montée de lait et beaucoup de prématurés ou des enfants malades, alors on passait avec une tireuse, on lui tirait le lait, on remplissait les bouteilles, et elle était contente, ma mère, de nourrir tous ses enfants, elle en avait plus.
Et ce personnage de ces deux enfants qui sont allaités, comme ça, qui restent chez votre mère.
Ça, c'était dans le bidonville.
Dans le bidonville.
Parce qu'à un moment, nous.
Alors, vous quittez la maison du grand-père dans le Var et vous allez vous installer dans un bidonville à Marseille.
Parce que mon grand-père l'a fait l'année passée par là, il fallait cotiser pour l'indépendance. Et tu payes un peu au début, et après, ça grossit.
Et les deux enfants qu'on laisse comme ça, moi je veux juste, ces deux enfants qu'on laisse, l'histoire est vraiment truculente, on laisse les deux enfants comme ça, et ils allaitent, et la personne est dit, mais quand elle vient les rechercher, les enfants, elle les reconnaît plus, et la mère dit, ben choisis-en deux, voilà, tu les ramènes chez toi, et s'ils gueulent, si t'en es pas content, tu les ramènes, voilà.
Les
parce qu'il y avait tellement d'enfants, on leur dit vraiment, c'est...
Non, parce que, ça explique, à un moment dans le bidonville, il faisait froid, c'était la galère, ce bidonville c'est un camp, c'est le camp Arena, c'est le camp juif, tous les juifs d'Europe se réunissaient pour aller en Palestine, avec l'Exodus, ou j'en sais rien. Et mon grand-père, quand il a quitté sa ferme dans le Var, il s'est retrouvé à Marseille, au Courbelzins, où tous les Juifs et les Arabes se croisaient, salam alaikum, de tous les côtés. Et il a dit, écoute, moi j'ai tout perdu, et je ne sais pas où on va, je vais avec ma femme et mes enfants, et il y a la guerre qui commence. Il lui a dit, écoute, il y a un camp, on est tous réunis là-bas, nous on va partir, tu peux le récupérer, tu fais ton foncier à version couscous. Ouais. Mon grand-père, il a dit, bon, on se met là, on verra bien, il s'installe. Et finalement, ils sont restés avec ces juifs, ces gitans, il y avait un peu toute la misère du monde.
Alors c'était des vrais bidonvilles alors.
Un vrai bidonville qui se trouvait entre la prison de Marseille et les Baumettes et les calanques de Morgeau, entre le paradis et l'enfer, on était au milieu. Et la montagne en face.
Et vous alliez vous baigner quand même dans les calanques,
Moi je suis parti très jeune, mais je veux dire, mes frères et sœurs, ils montaient les montagnes, il n'y avait personne, il n'y avait pas de route.
Alors c'est vrai, comme dans une chanson d'Aznavour, que la misère est moins pénible au soleil ou pas?
Ah oui, bien sûr, moi c'était le seul moment où j'allais me recharger, je veux dire, j'étais comme un chat, dès qu'il y avait un peu de soleil. Ma mère, de toute manière, quand elle me cherchait, elle cherchait le rayon de soleil, elle me trouvait un blouti à regarder le soleil comme ça.
Alors Bouchetin, on voit que tu as une vie quand même, une enfance... particulière, spéciale, mais ça explique pas tout, parce que moi je crois que ton talent à toi, cette langue que tu as, tu penses que ça vient d'où? Tu as beaucoup lu, tu écoutais beaucoup ce que racontaient les adultes, tu penses que tu es nourri de quoi?
Je suis nourri de ma mère, hein. Du lait et de...
Et les mots, comment tu as les mots comme
ça? Ah, les mots, c'est Marseille. Marseille, on n'a pas beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma. Le théâtre est dans la rue, je veux dire, les gens t'éduquent. C'est mon voisinage, je veux dire, comme il a dit... Otman, le moël de mon quartier qui s'appelle Monsieur Atea, qui est un juif de Constantine, lui, il n'est pas parti en Palestine. Finalement, il est resté. Il a dit, écoute, ils partent à la terre promise. Moi, je vais suivre les Maghrébins, je vais chercher la HLM promise. Et finalement, il est arrivé chez nous.
Et donc, chez lui, il avait une faconde, il a une façon de parler qui t'a nourri.
Lui, un peu tous. Monsieur Landolfi, tout. Mes voisinages étaient tous des provençaux.
Tu écoutais beaucoup tu parlais déjà beaucoup?
Non, je ne parlais pas beaucoup, j'étais dans mon coin et je buvais tout. J'observais, je buvais, j'avais faim et la soif d'exister.
C'est très concis, il y a des portraits incroyables, très très drôles, tout de suite. Là, comme il a dit, entre le paradis et l'enfer, il s'est bourré comme ça de métaphores incroyables, très drôles, vraiment.
Pour revenir au bidonville, voilà, un moment, on nous a donné la HLM et la marocaine, qui est la copine à ma mère avait 12 petits, elle 13. Et à un moment, la Marocaine, elle a dit, écoute, tu as de la chance, on t'a tiré au sort, tu pars à la première, il fait un peu froid dans le bidonville, prends-moi deux petits, ça me fera moins de galères et je ne vais pas les perdre et tout ça. Ma mère a dit, c'est bon, 12 ou 14, c'est pareil. Elle les a pris, ils ont commencé à grossir, ils étaient beaux, dans la HLM avec nous et tout. Et elle arrive, elle était toute contente, elle est dispatchée dans un autre bâtiment, nous le HLEI. Et elle arrive chez ma mère, elle dit, merci, c'est beau, c'est magnifique, il y a des balcons, les douches, y a tout ce qu'il faut. Et ils sont où mes petits? Ma mère dit, vas-y dans le salon, prends deux petits. Elle dit, mais c'est lesquels? Ils sont beaux tous. Elle a dit, écoute, prends-en deux, on n'est pas loin, si ça ne te va pas, tu viens les changer.
Bon, mais il y a mille bouchetins, on ne va pas tout dire, il y a mille histoires incroyables. Vraiment, lisez le livre de Bouchetin Saïdoun, Je voulais devenir un homme, c'est à l'Harmattan. C'est un livre magnifique et moi je suis épaté par ta langue à chaque fois là. L'humour
c'est un très grand dialoguiste, il faut le dire. C'est un dialoguiste incroyable. Et c'est déjà vraiment le patron d'un énorme scénario de cinéma, ça. Il faut vraiment le dire aux gens qui veulent
faire. Moi, je voulais faire
un énorme film.
Eh bien, il faut d'abord le livre, ensuite le film.
Tout à fait. C'est ce qu'on m'a dit.
Il y a peut-être un petit rôle pour Atmen, mais de dos, loin, dans le brouillard, la nuit, avec un camion.
Moi, ça m'a vraiment ému parce que ça raconte aussi mon histoire un petit peu. Un peu moins, mais votre mère m'a rappelé la mienne. Voilà.
Cher Bouchetin, merci.
Voilà. Mais de toute manière, le projet, on a une écriture d'un scénario. Avec une production qui s'appelle Sun Run. Le soleil qui court, il paraît.
Qu'est-ce que ça m'amène à mon émission que tu me dises le nom de ta production?
Ça t'amène que ça va écrire un scénario.
Fous-moi la paix, Atmen. Je lui parle à lui.
Aussi, Inch'Allah.
Bon. Eh ben, on en parlera à ce moment-là. Tiens, il y a ma sœur qui passe me dire bonjour.
Qu'est-ce que ça rajoute à l'émission? Parce que ta sœur vient nous dire bonjour.
Merci, mon bouchetin. Je t'embrasse. Et bravo.
C'est énorme, son bouquin.
Je voulais devenir un homme à l'armatan. Vraiment, vous le recommande. Salut.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
Un gadget.
Et c'est le retour de Marie Missé.
Oui, bonjour.
Bonjour Marie.
Comment
qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour. C'était bien?
Oui, c'était bien, mais c'est bien avec vous.
Ok. Alors dans la presse ce matin, évidemment Bruno Le Roux et sa démission est claire, ça fait la une. Le maintenant ex-ministre de l'Intérieur qui a embauché ses filles en tant qu'assistante parlementaire alors qu'elle n'avait que 15 et 16 ans est aussi vite venu, aussi vite parti de la saga présidentielle. Lui, il s'en va, titre Libération, tandis que le Figaro tourne l'affaire autrement. Il n'aura pas tenu 24 heures, peut-être pour souligner le côté dur à cuire d'un autre qui tiendrait depuis plus de 2 mois. Plusieurs journaux, en tout cas, tombent d'accord sur l'effet boomerang de la démission de Bruno Le Roux sur la campagne de François Fillon, écrivant que si la droite s'est réjouie des déboires de l'ex-député, ex-premier ministre, sa démission éclair en revanche ne fait que mettre en valeur le choix de continuer envers et contre tout de François Fillon. La Croix, Libé et Les Échos, notamment, le disent dans Les Échos. Un proche de Bruno Le Roux peste même, c'est ce qui est écrit. François Hollande préfère sacrifier un ami pour encore enfoncer Fillon. Pendant ce temps-là, dans le Figaro, Macron fait figure de radeau de la Méduse pour les paniquer du PS et du centre-droit. Toujours est-il qu'obtenir un CDD à 15-16 ans, ça n'est pas évident pour tout le monde. Alors afin d'aider vos jeunes à trouver du travail plus tard ou maintenant, Le Monde comme Le Parisien diffuse aujourd'hui leur classement des meilleurs lycées de France. Surprise, on ne trouve Louis Le Grand et Henri IV dans aucun de ces deux classements. Le Parisien répond même à la question « Pourquoi Henri IV n'est pas là ?» Eh bien tout simplement parce que les deux quotidiens nationaux ont créé des critères pour juger de la plus-value d'un lycée. En gros, ce classement prend en compte les résultats au bac, mais aussi les milieux sociaux et culturels dont sont issus les élèves, pour prendre en compte en fait l'exigence républicaine qui est dépassée par l'école, les inégalités sociales, ou donc la capacité des lycées à obtenir des résultats supérieurs à ceux attendus statistiquement. On retrouve plusieurs lycées dans les deux classements, ce qui me fait dire qu'ils sont faits à peu près pareil, notamment le lycée Mozart au Blanc-Mesnil dans le 93, dont l'objectif n'est pas de faire des miracles, mais de modifier des trajectoires qu'on croyait toutes tracées et il semble atteint. Deuxième objectif, élargir les horizons et japper au déterminisme. Mais alors ce qui frappe dans le classement du Parisien comme dans celui du Monde, c'est que la très grande majorité des lycées français n'offrent justement aucune plus-value. Plus-value proche de zéro, souligne Le Parisien, pour 53% des lycées français, dit Le Monde. Les élèves sont donc mis dans leur case et ils y restent jusqu'au bout de leur parcours scolaire. Et Le Monde relaie d'ailleurs, à propos de cette mise en case, un ras-le-bol de professeurs de banlieue qui estiment qu'à chaque sortie scolaire, leurs élèves sont stigmatisés, contrôlés à la sortie des trains, même en présence de professeurs surveillés, serrés dans les musées, alors que des élèves d'établissements plus IP y circulent librement. Un professeur du lycée Cachin à Saint-Ouen témoigne notamment « En décembre, le regard du personnel du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg a changé dès qu'ils ont su que ma classe venait de Seine-Saint-Denis. Nous nous sommes sentis fliqués. Les gardiens se parlaient au talkie-walkie pour se dire « Les voilà !» à mesure que nous progressions dans le musée, qu'on surveille un groupe scolaire, c'est normal. Mais là, des élèves d'une autre classe étaient en visite libre, ce que nous avons interdit, ce qu'on nous avait interdit. Et puis il demande comment est-ce que vous voulez faire croire que nos institutions sont ouvertes à tous quand on voit ce type d'attitude. Et puis toujours bon de rappeler que le lycée ne fait pas tout et que l'échec ne condamne pas. Le Monde consacre un portrait en dernière page de son supplément Science à Isabelle Fromentin, infirmière virée de 4 lycées dans sa jeunesse au désespoir de ses parents. Ses parents la voulaient médecin, elle sera donc infirmière au plus près des malades. Elle invente des façons inédites de panser les plaies des cancéreux et en ce moment, elle développe avec l'Institut Curie un protocole inédit pour dresser des chiens qui sentiraient le cancer dans nos urines. De quoi donner raison à cet élève du lycée Mozart au Blanc-Mesnil qui dit en ce moment « Je suis en échec, mais je vais me rattraper, je ne me découragerai pas ».
Merci beaucoup, Marie Misset. Voici justement le fruit de la méritocratie à la française, mais lui a fait le choix de retourner dans la rue. C'est Jack Souvent. Quelle liaison incroyable.
On est en train de fêter l'anniversaire de Rachid.
Oui.
66 ans, j'ai été chercher les chocolatines. Oui, c'est ça, Jack.
Bon anniversaire, monsieur.
Merci, merci.
Et ça commence dès le... Vous avez décidé de le fêter dès le matin ?
Ah ben ouais, de bonne heure, je suis parti et voilà, j'ai eu le plaisir de croiser un charmant monsieur.
Oui.
Voilà, bon, je ne connais pas son prénom encore, il ne me l'a pas dit. Mais...
Il s'appelle Jack, ouais. c'est louche qu'il ne le dise pas, il s'appelle Jack.
Ah, il ne s'est pas présenté, bon, mais merci. Bonjour Jacques, voilà.
Alors on vous souhaite tous un très bon anniversaire, il y a des choses qui ont été organisées pour cet anniversaire, vous pensez ? Peut-être une surprise, vous allez le fêter ?
Si quelque chose est organisé, ça relèvera de la surprise. Je ne suis pas au courant. Hein.
Est-ce que vous êtes un souffleur de bougies, monsieur ? Est-ce que vous aimez souffler les bougies ?
Ouais, j'ai encore la capacité respiratoire. Hein.
À partir de quel âge ? Est-ce qu'à partir de 120, 130 ans, vous pensez qu'il y aura trop de bougies ?
Ah, et bien écoutez, rappelez-moi à ce moment-là.
Avec plaisir. On vous rappellera tous les 66 ans, cher monsieur, avec grand plaisir.
Allez, ok, d'accord.
Belle journée à vous.
On prend les chocolatines maintenant ou...
Allez-y, en chocolaté. Ouais, ouais. Ou...
Voilà, si vous en voulez une, vous venez.
On peut couper ce morceau-là que j'aime pas du tout.
Enfin, Edouard, c'est possible ou
pas ?
Qu'est-ce que tu vous prends ?
Ce morceau m'agace. On peut l'enlever ou pas ?
C'est un geste un peu fort. L'auditeur, je peut être choqué.
C'était un très beau morceau, musique. Mais je ne savais pas comment le couper.
Bon, c'est le rappel. 18h33.
Non mais l'info est grave en plus. Une journée de commémoration aujourd'hui en Belgique. Il y a tout juste un an, deux attentats secouaient le pays, faisant 32 morts et des centaines de blessés. C'est la journée mondiale de l'eau, ce mercredi 22 mars. 3 à 4 milliards d'êtres humains n'auraient pas accès à l'eau potable, qui est pourtant un droit fondamental selon l'ONU. Les compteurs, dits intelligents Linky, installés au fur et à mesure par EDF, mesurent justement à distance et en direct la consommation d'eau, mais aussi d'électricité et de gaz. Ce sont des compteurs très décriés. Leurs détracteurs redoutent des risques sanitaires ainsi qu'une intrusion dans la vie privée. 200 collectifs et assos appellent un rassemblement national en fin de matinée, aujourd'hui donc devant la maison de la radio. Les Gudards sont aux affaires au Front National. Le FN vient d'engager comme chargé de mission pour sa campagne Frédéric Chatillon, président du GUD dans les années 90. Le GUD, controversé syndicat étudiant d'extrême droite, accusé récemment d'antisémitisme. Chatillon est considéré par la justice comme le personnage central du système organisé par le FN pour ses campagnes électorales depuis 2011, ce qui lui vaut dans deux enquêtes distinctes un renvoi en correctionnel et une mise en examen. Bruno Le Roux a donc démissionné hier, remplacé par Mathias Fekel, jusqu'ici secrétaire d'État au commerce extérieur. Bruno Le Roux a été contraint de tirer les conséquences des révélations sur l'emploi de ses deux filles à l'Assemblée nationale alors qu'elles étaient mineures. L'enquête sur l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale est élargie à des faits d'escroquerie aggravée et de faux et usage de faux. Les enquêteurs auraient saisi des documents laissant penser que les époux Fillon ont pu produire des faux pour justifier les salaires de Pénélope Fillon. Selon le Canard enchaîné du jour, François Fillon aurait touché près de 50 000 euros pour organiser deux rencontres entre un industriel libanais, le PDG de Total et Vladimir Poutine. Volkswagen, Renault et maintenant Fiat Chrysler, le groupe italo-américain est à son tour visé par une enquête des juges d'instruction parisiens sur des soupçons concernant les dispositifs de contrôle aux émissions polluantes de véhicules diesel. L'Allemagne ouvre aujourd'hui la voie à la réhabilitation et l'indemnisation de quelques 50 000 hommes condamnés pour homosexualité sur la base d'un texte nazi resté en vigueur longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Et puis désormais, le casque est obligatoire pour les enfants à vélo. Les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers, devront obligatoirement être équipés d'un casque. Montant de l'infraction, je ne vous l'ai pas donné précisément, la voici. Le cas échéant, donc bien sûr, 135 euros.
Si on ne met pas de casque sur son vélo,
135 euros.
Coco, toi, tu mets un casque sur ton vélo ?
Oui.
Ah bon ?
C'est bien.
Bon, bah alors, tu sais, c'est ma nièce, elle le faisait déjà. Bon, moi, j'en peux plus des lois, des machins, des trucs. Merci beaucoup, Thierry Paret. Tu connais Tito, Coco, ou pas ? Tu l'as déjà vu ?
Non.
Tu sais ce qu'il va faire ? La météo.
Aujourd'hui, bonne fête, Oléa, Oléo, Olio, Olao, Olion, Oloïs, etc. Alors, le temps sera couvert, il y aura un peu de pluie sur toute la France, sauf à Nice. Les températures seront à Boulogne-sur-Mer de 5 à 11, à Corté de 7 à 18, à Laval de 3 à 9, à Limoges de 3 à 13, Montpellier de 11 à 15, Pau de 3 à 16, Saint-Étienne de 6 à 14, Mexico de 8 à 26. La 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 la.
Alors les gens me demandent ce que vous disent l'ail au l'ail, rien.
Tout va,
7h, 9h, Edouard Baird.
Ça me rappelle rien.
Ton humour, il va passer à la moulinette, ce seront les derniers mots de cette pub Lidl. Je suis content de ne la réveiller qu'après, comme ça elle aura échappé à ces moments sonores. Je pense que Claire Chazal doit se réveiller vers ces heures-là.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
À la fois douce et inquiétante, mystérieuse et rassurante, elle accompagne nos jours et nos nuits dans cet écran plat qu'on appelle la télévision. Nous en avons rêvé, nous l'avons parfois croisée. Nous sommes heureux qu'elle soit là, mais où est-elle le matin, avec qui, comment, pourquoi, combien? Bonjour Claire.
Bonjour Edouard.
Claire, est-ce que 8h40, c'est une heure où vous supportez à peine les autres gens?
Ah non, non, je les supporterais moins bien plus tôt. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime le matin, donc je me lève assez vite pour chasser les idées noires du petit matin. Donc je me mets dans l'activité, voilà, je fais des gestes.
Il y a ce fameux passage de la nuit au vrai réveil, ce moment incertain, c'est entre-deux.
Oui, qui est pour moi depuis assez longtemps quelque chose d'assez douloureux, c'est peut-être un peu fort, mais c'est parfois assez sombre, oui.
Moi aussi, chère Claire. Alors, il y a un truc qui est souverain, ça marche à chaque fois, en tout cas pour moi.
C'est de la radio très tôt.
C'est de se lever, non?
Exactement, c'est souverain, ça, c'est se lever. C'est écouter les bruits du monde tout de suite, la radio, le chat qui s'étire, les oiseaux dehors, et voilà, et la musique, et c'est ça qui me sort de cette zone un peu interlope.
Cette zone grise, oui.
Cette zone grise, oui.
Je me lève.
Non, cette crise.
Voilà. Et je te bouscule. Est-ce que vous avez la même sensation avec les crépuscules, avec les fins de jour?
Pas du tout. C'est exactement l'inverse. J'aime beaucoup le soir. C'est au contraire annonciateur de quelque chose, des amis, d'un spectacle, d'émotions, de rencontres, et c'est tout à fait différent. Voilà.
Vous préférez, vous préférez la descente vers la nuit plutôt que la montée vers le jour.
Ah, tout à fait, vraiment. Je n'aime pas m'extraire de cette nuit, et je constate que cet état un peu étrange, je le ressens je pourrais le ressentir à une heure précise, ce serait un basculement vers 5 heures ou 6 heures, et là, c'est plus difficile, voilà.
Et même si vous dormez dehors, sur la plage, dans la campagne, sur un hamac?
Ah oui, ça fait un certain temps que je n'ai pas fait ça.
Je vous le recommande.
Il faudrait réessayer peut-être.
Alors ensuite, une fois que vous avez quitté cette zone interlope, cette zone grise, cette zone d'incertitude, qui ressemble en histoire, ça serait l'occupation bien sûr, mais dans la journée, ça s'appelle l'aube froide, froissée d'incertitude.
C'est plus métaphysique que contingent, c'est au-delà des événements du monde, c'est à l'intérieur de soi, je dirais. Pardon d'être absolument pédante et idiote,
non.
C'est la solitude de l'être humain, là, assez profonde, quoi.
Vous avez donc froid, vous venez de quitter ce froid à l'âme, chère Claire. Est-ce que vous êtes allée vous réchauffer à la chaleur d'une douche amie?
Je me réchauffe à la chaleur des gestes du matin et d'un peu d'exercice physique, d'éprouver le corps, surtout ça, de bouger.
Alors on est sur quel rituel, Claire? Parce que c'est pas du tout le même lever d'une femme ou par exemple d'un champion de close combat qui lui s'assènerait déjà sans doute quelques coups de crâne contre le mur. Donc exercice physique, c'est plus souple que ça?
Ah oui, je tente de la souplesse, enfin en tout cas l'assouplissement. J'aime ça, moi je mets de la musique et je commence à faire des exercices pour que le cours de danse que je vais prendre à 11h, pratiquement tous les matins, enfin même tous les matins, soit plus facile et je commence par ça. Alors en écoutant la radio, donc je suis un peu les bruits du monde, mais je déroule, j'essaye.
Vous déroulez votre corps comme de la pâte pâtissière sous un rouleau.
Enfin, évidemment, l'image n'est pas, ne sera pas retenue, bien sûr, par le... par la police des métaphores. Claire Chazal, donc on est donc... ça rigole pas hein, chez Claire Chazal. Il y a de la gym tous les matins, il y a de la danse ensuite. Oui, oui, vous vous astreignez à une...
Oui, c'est vrai. Je rigole pas.
Musique, gymnastique. Ouais. Est-ce que vous avez des rituels de salle de bain que vous aimeriez partager avec nous? Est-ce qu'il y a
ils sont même effroyables, ces rituels de salle de bain.
Oui, on est sur de l'eau glacée comme une paire de claques.
Oui, il y a ça. Non, ils sont effroyables parce qu'ils sont toujours les mêmes. C'était... l'idée que le geste est exactement le même quand on prend la crème, l'objet, le dentifrice, je le suis absolument scrupuleusement, je le fais, je ne peux pas m'empêcher et c'est toujours une source d'angoisse ou de d'interrogation. Pourquoi ?
C'est l'automatisme des gestes, c'est le rituel vous fait peur. Il y a peut-être une solution, Claire. Si on est obligé d'avoir les dents propres, on n'est pas obligé de le faire soi-même. Vous pourriez avoir des metteurs en dentifrice, des savonneurs, peut-être vous pourriez...
Ah oui, alors...
Il faut peut-être qu'il y ait du mouvement. Je ne sais pas, je cherche des solutions avec vous, effectivement, pour échapper aux 20 minutes obligatoires et ennuyeuses.
Des êtres humains, oui, qui aident à faire ça. Je ne sais pas, j'aime assez bien la solitude. J'aime assez bien la solitude à ce moment-là.
Vous n'êtes pas le genre de femme qui embaucherait quelqu'un pour lui brosser les dents le matin ?
Pas réellement, non.
Non.
Pas réellement. Même pas pour faire des machines, pour ranger le linge, pour faire partir des... Ça, j'aime assez bien faire ça.
Vous lancez des machines le matin, des machines à 40 ? Oui. Vous êtes... Ce matin, on est sur du textile fragile ? On est sur quoi, ce matin ?
On est sur du blanc. On est sur du blanc.
Le blanc, vous le faites à 60 ?
Oui, je le fais à 60.
Oh oui, parce qu'il ne faut pas l'abîmer. Hein, ouais.
Non, mais oui, c'est plus fragile, je le fais à 30. Voilà.
Oui, alors si on est sur des textiles, quasiment des soies ou des cotons, des lins, des cotons.
Ah bah, très... totalement, oui, ouais. Ça, je suis bien assez habituée à tout ça. Oui,
elle est sécheuse ?
Ah, pas du tout.
Ah, c'est une machine qui n'est pas sécheuse. Donc...
Ah bah, pas du tout.
Ah,
je
oui.
déteste les machines séchantes parce que ça abîme beaucoup. Non, non, non.
Donc vous êtes obligée de retirer le linge après et d'aller le suspendre ?
Je l'étends.
Vous êtes doté d'une buanderie, une pièce pour faire sécher le linge, ou ça envahit votre cuisine ?
Ah non, ça, j'ai beaucoup de chance, hein, Edouard.
Oui, mais tant mieux, tant mieux.
Je suis largement privilégié et j'habite un endroit assez spacieux. Et j'ai un lieu pour étendre ce linge qui ne pollue pas trop mon environnement. En
fait. Mais vous le méritez, Claire. Donc vous avez une pièce pour vous brosser les dents, une pièce pour le sport, une pièce pour faire sécher le linge. Vous êtes bien.
Enfin, la pièce pour le sport, ça non. Le sport, je peux le faire partout.
Il y a des tableaux chez vous ? Il y a des sculptures ? Il y a des objets ?
Des objets. Il y a beaucoup de livres, je dirais. Ce qui domine, c'est les livres depuis que j'ai accumulé, lu depuis toujours, depuis l'adolescence, l'enfance même. Enfin, oui, j'ai gardé pas mal de livres de l'enfance, mais surtout après, ils s'accumulent. Je fais un tri, j'essaye de garder ce que je lis,
oui.
Ce que j'ai envie de lire. Et évidemment, on est un peu envahi. Et j'aime beaucoup cet envahissement.
Et Claire Chazal, vous avez un rapport charnel aux livres ? Vous enlacez vos livres, vous les passez sur vos joues, oui ?
Ah oui, je ne lis jamais sur une tablette. J'emporte les livres, c'est très lourd l'été dans les valises, mais j'emporte les livres. Et ça ne me dérange pas qu'ils soient abîmés, cornés, presque tachés, ça ne me dérange pas. Qu'ils soient en vrac, qu'ils soient en désordre. J'essaye après de faire un ordre, mais je veux un livre. Ouais.
Claire, merci, j'ai l'impression de mieux vous comprendre, je me sens plus proche de vous. Ce doute de l'aube, c'est cette brosse à dents comme un rituel à la fois nécessaire et ennuyeux, ce souci du corps et puis ces livres amis.
Voilà, c'est assez bien résumé.
On vous embrasse très très fort, chère
moi
Claire.
Aussi, je vous embrasse.
Au coin de la joue. Salut, belle journée à vous. Oh, il est beau, bonjour Grégoire Bizot.
Bonjour.
C'est Thomas Baumgartner qui fait des petits dessins face à vous.
Ça, c'est des lettres.
Ah, c'est des lettres anonymes que vous envoyez à la police.
Oui. C'est pour plus tard.
Grégoire Bizot, vous êtes, on est ravis que vous venez nous parler du monde politique et nous éclairer de vos lumières intérieures.
Oui, bien sûr.
Je sais que vous vous interrogez, vous m'en parliez pendant ce tango, sur les clivages gauche-droite, sur la disparition apparente, en tout cas, de ce qui a structuré la politique française depuis tant d'années.
Enfin, structurer la vie politique, pas que la vie politique, structurer aussi nos psychés, notre culture. Je crois que c'est quelque chose, c'est un espèce de clivage... extrêmement structurant de notre pays, la gauche et la droite. Et pour la première fois, si en tout cas on s'oriente vers ce vers quoi les sondages nous disent qu'on va, il y aura deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui se revendiquent et l'un et l'autre, ni de droite, ni de gauche.
Alors Marine Le Pen, elle ne dit pas qu'elle est de droite.
Alors elle ne dit pas qu'elle est de droite, elle dit qu'elle est patriote. Alors il faut être
et les autres sont quoi?
Alors il faut être un tout petit peu clair sur ce que peut être le Front National. C'est clairement un parti d'extrême droite sur les questions sociales, sur les questions sociétales, mais l'ADN économique de son programme et là, et pour le coup, totalement hybride, et à l'empreinte, beaucoup de marqueurs et d'ADN, voire de philosophie plutôt de gauche, le rapport à l'État, la défense des fonctionnaires, la retraite à 60 ans, et tout ça n'est pas du tout dans l'ADN culturel de la droite.
C'est plus une idée national-socialiste, voilà, vous voulez nous dire
c'est l'idée d'une...
En tout cas, c'est sympa, quoi, c'est ça que vous voulez dire. Tout ça est sympa, c'est peut-être pas le sens de votre propos.
Tout ça, ce qui est intéressant, c'est quand on pose la question aux Français, est-ce que ce clivage est dépassé?
Oui.
Et ils sont plutôt très majoritaires à dire oui, ce clivage est dépassé. Et en même temps, les Français, comme toujours, sont assez ambivalents. Quand on leur demande aussi dans ces mêmes sondages, est-ce que vous voulez vous placer, est-ce que vous vous placez naturellement sur une échelle gauche-droite ? Naturellement, ils viennent se placer plutôt à gauche, plutôt à droite. Donc c'est à la fois quelque chose de pertinent et en même temps, ils sentent que c'est quelque chose qui les enferme dans leur représentation mentale.
C'est aussi parce qu'on leur demande, Grégoire Bizot, de se placer sur une échelle gauche-droite.
Absolument. Mais en même temps, quand on questionne les sympathisants de droite, plutôt de droite, et les sympathisants plutôt de gauche, on leur demande quelles sont les priorités pour le pays, les priorités de réforme, etc. On voit très bien que ce clivage est toujours pertinent. C'est-à-dire que les questions sociales, quand vous êtes plutôt de gauche, apparaissent tout de suite en avant, et les questions plus relatives, on va dire, à l'identité, la sécurité, etc., et l'immigration...
Ou la liberté aussi.
Et la liberté est une notion qui, même pour la droite, est une notion qui est un peu régressée dans la question, par exemple, des libertés publiques, qui est plus portée un peu en ce moment par les gens de gauche que par les gens de droite. Donc, il y a là quelque chose de totalement inédit. Et cette fracture, pour être tout à fait franc, elle vient pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est une faille un peu souterraine, comme ça, qui remonte d'abord au traité de Maastricht sur cette question européenne. Vous vous rappelez, tout d'un coup, on a vu une recomposition droite-gauche, ouvert-fermé, pro-européen, rapport à la mondialisation. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Cette recomposition, elle s'est, si je puis dire, confirmée en 2005 avec le référendum, où là, on a vu aussi qu'il y avait une sociologie derrière. Une sociologie où on a vu que les personnes âgées étaient plutôt ouïes, les nonistes étaient plutôt des classes populaires. Voilà, donc il y a une recomposition à la fois sociologique, d'âge et partisane. Et maintenant, ça débouche, pour la première fois dans notre vie politique, sur quelque chose de totalement inédit, deux candidats qui refusent cette étiquette. Alors on pourrait se dire, mais ma foi, faisons péter nos
vieux carcans.
Nos vieux carcans, et peut-être que de cela va sortir quelque chose de totalement exaltant. On peut aussi imaginer qu'on va se restructurer, on va se repenser, à la fois, pourquoi pas, balayer ce vieux carcan.
Alors, peuple de gauche, peuple de droite, ces fameuses appellations, pour vous, c'est le vieux monde, ça ?
Bah, en tout cas, il y en a qui le pensent. Alors, à la fois, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... On peut se dire, on est en train de basculer dans quelque chose d'autre, donc ouvrons grand les fenêtres. Et en même temps, il y a quelque chose derrière d'extrêmement pernicieux, pervers et un peu flippant, il faut bien le reconnaître. C'est que si vous avez conservateur et progressiste, on va dire, c'est-à-dire que l'alternance à un Macron... Il n'y a plus qu'une seule alternance possible, c'est le Front National. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là où on rentre dans... il n'y a plus ni droite ni gauche, ça veut dire que la seule alternance possible, c'est le Front National. Donc le Front National est en train, et la possibilité que le Front National arrive au pouvoir est quasi certaine.
Donc vous voulez dire qu'après le clivage droite-gauche, le seul clivage possible, c'est les gentils, les méchants.
Eh bien, non mais c'est ce qui est en train de se... Alors, est-ce que ce moment qu'on est en train de vivre, c'est un moment, on va dire, structurant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va dans l'histoire politique française, on va dire, là, il y a eu un tournant, ça s'est recomposé, les partis vont se recomposer, on va se repenser, ou est-ce que c'est un moment, c'est-à-dire juste un moment, c'est-à-dire que Macron n'est finalement le révélateur de pas grand-chose, si ce n'est de son talent, et qu'on va retrouver nos schémas, nos réflexes et notre habitus culturel.
Ouais, oui, mais il faut faire attention à ne pas vendre la peau du deuxième tour avant d'avoir voté. Parce que là, c'est la base de la réflexion, c'est de savoir déjà qui sera au deuxième tour.
Tout de suite après, on invitera Jacques Cheminade pour parler du deuxième tour. Merci Grégoire Bizot. Merci.
7h-9h, plus près de toi.
Comment il s'appelle, lui ?
Amoniacal.
Oui.
Oui.
Bonjour Amonia Kahl.
Bonjour.
Tu sais qu'on est en retard, on va se faire gronder par Yacine et Thomas.
Par Monsieur Chevènement.
Non, pas Monsieur Chevènement, il n'est plus ministre, Monsieur Chevènement. Tu veux ton petit générique? On fait le générique? On y va.
Mignon, 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 mignon. Bravo.
Voilà, il y avait une petite invitée pour le générique, et maintenant elle va retourner en prison. Vas-y, ma petite.
Ben, je dis juste ce que je suis.
Oui.
Je suis moitié pingouin, moitié homme et moitié chiffon.
Eh oui, mais les gens te connaissent maintenant. Ils t'apprécient beaucoup, surtout la partie chiffon qui les aide dans leur vie quotidienne.
Pour s'essuyer quand ils ont fait du sport.
Dans toute occasion, oui.
En ce moment, je travaille dans une salle de sport. Et je me mets à côté des haltères et comme ça, les gens qui font du
bodybuilding, ils peuvent
s'essuyer avec moi.
C'est bien de trouver ta place dans la société.
J'essaye de trouver ma place dans la société malgré mon handicap.
C'est important d'avoir un lien aux autres. Et tu me disais, ma partie pingouin ne sert à personne.
Si.
Si, parce qu'on peut me planter un bâton, ça fait un esquime. Non. Tu me disais quoi?
Non, je disais
pas
ça.
Tu me disais pas ça. Et mais ma partie chiffon.
Mon pingouin, il sert parce que comme ça, j'ai une démarche ridicule.
Ah, tu fais rire les gens, c'est si bon de rire par les temps qui courent.
Oui.
C'est libérateur, par exemple, les temps courent, et puis nous, on peut faire.
Et les gens, après, ils se moquent de moi. Après, une fois. Des fois, ils se mouchent dans mon chiffon, et après, je ne sais plus du quoi.
Quoi dire ? Tu sais qu'il est très tard, et que tonton Yacine,
il est 10h du matin.
Il va te gronder. On t'embrasse très fort, Amonia Kahl.
Moi aussi, je m'embrasse très fort.
Oui. Tu veux rencontrer tonton Yacine ? Viens, tonton Yacine, on t'a pris 3 minutes de ton émission.
Monsieur Yacine.
Viens voir, Amonia Kahl.
Allez, allez.
On vous embrasse très fort.
On va
t'essuyer. À demain. À demain.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.